un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé.
Ça fait 50 ans qu'on leur dit, hein. Depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72.
Qui aurait pu prédire ?
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Look Up, le podcast du vivant, avec Marion Bailly, sur Radio Alpa.
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de nos amis les arbres. On entend souvent que la restauration des arbres fait partie des stratégies les plus efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur le terme de restauration. Si on doit restaurer, c'est que les forêts ont été détruites à un moment donné. Que s'est-il passé ? Eh bien, avant d'utiliser le charbon, qui marqua l'essor de l'ère industrielle, les humains utilisaient les arbres comme principale source d'énergie, comme matière première, un peu pour tout en fait. Et les forêts ont pris bien cher à cette période. On les a laissés un peu respirer quand on a commencé à découvrir donc le précieux charbon, si efficace. Je ne reviens pas sur les conséquences du charbon en lui-même ou des énergies fossiles, mais bien sûr, ça a engendré plein de trucs un peu moins chouettes. Jusqu'en 1945, où les forêts se font de nouveau dézinguer. Bah ouais, faut reconstruire l'Europe, la population mondiale augmente très vite. Mais grâce au fameux progrès, on a développé de nouvelles machines super puissantes. Du coup, on défonce facilement les forêts pour faire des cultures à la place ou pour avoir des matières premières. Quand on regarde de plus près les causes de déforestation, on voit que ça dépend fortement des régions, mais les mêmes reviennent toujours. Selon la carte mondiale de la déforestation, entre 2001 et 2015 de la revue Science, l'exploitation agricole, minière et l'industrie impactent fortement les forêts d'Amérique du Sud et d'Indonésie. Les forêts canadiennes et russes se font surtout dézinguer par les feux de forêt. Europe, USA et Asie, c'est surtout la faute de l'industrie forestière. Et enfin, en Afrique et en Amérique du Sud, l'agriculture intensive est la grande responsable. Ça, c'était pour l'histoire de la déforestation en très très rapide. Maintenant, pourquoi les arbres c'est cool et on devrait en planter plutôt qu'en arracher ? Les arbres c'est cool pour le climat. Ils jouent un rôle primordial dans le stockage de carbone, puisqu'ils absorbent ce gaz maintenant bien connu et relâchent en contrepartie de l'oxygène dans l'air. Les forêts, notamment les tropicales, sont des puits de carbone importants. Plus on aura de forêts, moins il fera chaud. Mais pour ça, il ne faut pas trop attendre. Un arbre vit plusieurs décennies, voire des siècles. Plus l'arbre est vieux, plus il stocke du carbone. Il faut enregistrer que les arbres et nous, petits humains, ne vivons pas sur la même temporalité. De plus, les arbres jouent un rôle dans le cycle de l'eau. Ils absorbent l'eau de pluie qui s'évapore par les feuilles pour ensuite former des nuages qui vont à leur tour amener la pluie. Et ouais, la nature est bien faite. Mais du coup, plus on coupe des arbres, moins il pleut, moins les arbres poussent. D'ailleurs, fun fact, s'il ne pleut pas dans le désert, c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres, et non l'inverse. En plus de tout ça, les racines des arbres permettent de lutter contre l'érosion des sols en le structurant. Un terrain où il y a des arbres retiendra mieux l'eau de ruissellement, utile en cas d'inondation, mais aussi contre la sécheresse, puisque les racines stockent l'eau selon les besoins. En été, les forêts nous procurent de la fraîcheur. En hiver, à l'inverse, elles retiennent la chaleur. C'est pourquoi on crève de chaud l'été en ville. Au lieu des arbres, on a du bitume qui absorbe les rayons du soleil et la chaleur qui va avec. Bien moins fun quand même. Les forêts sont aussi d'importants réservoirs de biodiversité. Entre les arbres, les arbustes, les plantes, les mousses, les insectes, les oiseaux, mammifères et j'en passe, une forêt permet d'abriter et de nourrir de nombreuses espèces. Sauf que des forêts remplies de vie, y en a plus tant que ça. Alors oui, on replante des arbres, ça nous arrive. Mais bien souvent des forêts de monoculture, comme par exemple le pin dans les Landes, dans lesquelles les arbres sont destinés à être coupés assez jeunes pour vendre le bois. Plein d'arbres de la même espèce ne permettent pas de créer une forêt. Ajoutez au fait que les arbres sont coupés jeunes, relâchant alors le carbone stocké durant leur vie. On peut dire que très peu de vie se développe dans ces dernières, et qu'elles ne contribuent que très peu au stockage de carbone ou au cycle de l'eau. De plus, en cas d'incendie, de tristes exemples en témoignent, une forêt destinée à l'exploitation n'est pas armée pour ralentir les flammes, avec les conséquences qui s'en suivent. Donc une fois n'est pas coutume, quand notre président se lance des fleurs pour des milliers d'arbres plantés, c'est à prendre avec des pincettes.
Notre cap, c'est de pouvoir replanter 1 milliard d'arbres en 10 ans.
C'est pourquoi on voit naître des projets comme celui de Francis Allais, qui a pour objectif de reconstituer une forêt primaire de l'Europe de l'Ouest, avec une superficie de 70 000 hectares, le rêve. Le but étant de laisser la forêt autonome, pour qu'elle renouvelle et développe sa faune et sa flore sans aucune intervention humaine. Et cela sur une période de plusieurs siècles. Je suis intimement convaincue que ce genre de projet est clairement l'avenir. Bien plus utile au climat et à la biodiversité que les soi-disant forêts de l'industrie forestière. Je vous laisse le découvrir grâce à cette interview sur Ushuaïa TV.
C'est de trouver une surface importante, 70 000 hectares, et une fois qu'elle est trouvée, on ne fait rien. Facile. On retire éventuellement les panneaux, les sièges, les restes de murets, je ne sais pas quoi, toutes les traces humaines, on les élimine. Puis après, on ne fait plus rien. Pas question de planter un arbre et pas question de récolter un tronc qui tombe. Donc, c'est pas la peine de s'en mêler.
La forêt n'a jamais eu besoin des humains pour exister.
Bien sûr que non.
Il faut se rendre compte de ce qu'est une forêt primaire. Białowieża, en Pologne. Cette forêt, parlons-en, c'est la petite forêt relictuelle, c'est vraiment une peau de chagrin hein, de forêt primaire. La seule, la dernière en Europe.
Oui.
Avec une biodiversité hallucinante.
Beaucoup de bois mort au sol,
oui.
Voilà. On le laisse pourrir et ça favorise la richesse du sol, bien sûr. Il y a plein de choses. Hein. C'est plein de plantes et d'animaux. Oh, c'est des castors, ça.
Ah oui, oui. Il y a aussi des gros quadrupèdes.
Ça fait partie de la biodiversité européenne.
Là, on est en Pologne. Hein.
Oui, oui, mais on les avait ici. C'est le maximum de biodiversité qu'on puisse avoir dans une région donnée.
Sur Białowieża, par exemple, tu as entre 12 et 13 000 espèces différentes qui ont été recensées. Et à titre comparatif, sur la forêt de la Massane, qui en France est une des plus anciennes forêts et des plus riches, on n'a qu'environ 6 000 espèces recensées. Les études ont montré qu'une forêt qui a un siècle d'existence, elle ne possède que 10% de sa biodiversité. 100 ans, 10%, et ben il faut effectivement 10 siècles pour arriver à 100%.
Tu veux dire qu'il faut 1000 ans pour que toute la population...
On ait 100% de la biodiversité qu'on pourrait avoir présente dans cette forêt.
Le facteur temps est terrible.
Jusqu'ici, on n'a parlé que de forêts. Mais les arbres hors des forêts sont aussi largement précieux. C'est le cas des haies qui avaient pour habitude d'entourer nos champs de culture, formant ainsi des bocages. Sauf que, toujours après-guerre, avec l'arrivée des super tracteurs, on s'est dit qu'on gagnerait du temps s'il n'y avait pas d'arbres entre les champs, pour pouvoir faire des giga-grosses parcelles qui rapportent plein de sous. Ou pas. C'est ce qu'on appelle le grand remembrement, quand on a coupé toutes nos haies. Sauf qu'en fait, ce faisant, on prive les animaux de la campagne d'habitat et de ressources alimentaires, faisant s'effondrer certaines espèces et pulluler d'autres, libérées de leurs prédateurs. Les espèces qui se sont multipliées se sont donc tournés vers les cultures pour se nourrir, devenant ainsi des ravageurs contre lesquels les agriculteurs et agricultrices dépensent beaucoup d'énergie et de produits chimiques parfois pour tenter de sauver leurs récoltes. Et oui, les haies ont une grande utilité dans cet équilibre. On parle d'ailleurs de couloir écologique. Imaginez par exemple une zone rurale avec des champs, entourée de haies et des forêts au loin. Les haies permettent aux animaux de passer d'une forêt à l'autre, enrichissant l'écosystème de ces deux forêts. Imaginez maintenant ce fonctionnement au niveau mondial. Combien de couloirs ont été coupés et combien d'écosystèmes se sont privés de développement, voire d'habitat ou de nourriture. Faut pas s'étonner de l'effondrement de la biodiversité quand on voit comment on la traite. Comme en témoigne cette vidéo d'Arte.
Cette année, les scientifiques ont recensé près de 23 000 espèces en danger. Parmi les plus menacées, il y a le marsouin du Pacifique. Il ne serait plus que 10 dans les fonds marins. L'homme est le premier à détruire la biodiversité avec l'élevage et l'agriculture intensive, avec la déforestation et la pollution aussi, et puis il y a le réchauffement climatique. Sans biodiversité, impossible pour l'homme de vivre. Sans forêt, pas d'oxygène. Sans animaux et sans plantes, pas de nourriture.
Donc l'objectif, maintenant qu'on a coupé toutes les haies, c'est d'en replanter. C'est d'ailleurs ce que fait l'entreprise MyTree, qui finance des projets de replantation partout en France. Si vous avez pas mal d'arbres à planter, ça vaut le coup de les appeler. Et enfin, les arbres, c'est juste trop cool. On découvre tous les jours des capacités insoupçonnées chez ces êtres vivants. Je vous recommande d'ailleurs le livre « La vie secrète des arbres ». Par exemple, le fait qu'ils peuvent communiquer grâce à leur réseau de racines et de champignons souterrains. Ce qui leur permet de donner de la nourriture à un arbre dans le besoin. Certains arbres destinés à mourir se voient ainsi maintenus par leurs potes le temps d'aller mieux. Les arbres vont ainsi reconnaître leur progéniture et les privilégier via le système racinaire. Certains seraient même capables de prévenir ces congénères d'une attaque d'insectes en émettant des molécules qui seraient apparentées à nos neurotransmetteurs. Il faut en effet voir la forêt comme un grand écosystème qui fonctionne ensemble, plutôt que comme la somme des arbres qui la composent. chaque individu a intérêt à ce que ce voisin survive, pour qu'il puisse remplir son rôle au sein de la forêt en synergie. On est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Eh bien, en voilà un modèle sociétal qui fait rêver. On ferait peut-être bien d'en prendre de la graine. Je pourrais passer la journée à parler des arbres tant il y a à dire sur leur utilité dans notre vie, sur leur spécificité, même leur beauté. Mais je vais devoir m'arrêter là et vous inviter à aller creuser ce sujet pour en savoir plus. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcasts. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up.
Mais moi je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver cette planète.